que nous ayons le temps de discuter, ce qui nous a déjà beaucoup manqué.
Merci.
Je vous propose que nous reprenions. Je vous propose que nous reprenions maintenant la suite de notre matinée avec une table ronde. Nous aurons deux intervenants qui vont travailler ensemble, hein, je crois, qui vont travailler en simultané. D'une part, non ? L'une après. Alors, tout d'abord, Elisabeth Darchy va intervenir, puis ensuite Aïdé Popper. Elisabeth Darchy est psychologue, psychanalyste, membre de la PIF, de la Société française de thérapie familiale psychanalytique, de la IPCF. Et ensuite, Aïdé Popper, qui prendra la suite, qui est aussi psychologue, psychanalyste, et elle aussi membre de la PIF, de la Société nationale, de la SFPPG et de la IPCF. Toutes les deux vont nous parler de rêves et cauchemars partagés dans le néogroupe d'une thérapie familiale psychanalytique. Ce sera Pierre Benogosi que je présenterai tout à l'heure qui sera leur discutant. À toi, si tu veux.
Bonjour. Avant d'exposer mon cas clinique, je voudrais faire un petit avant-propos. Je voudrais dire d'abord mon émotion de participer à ce colloque en hommage à André Ruffio, avec qui j'ai eu l'honneur d'échanger parfois, et ceci surtout grâce à Gérard de Scherf, qui était un grand ami d'André Ruffio. Il l'a connu dans les années 50, je crois. Il a fait les premières thérapies dans les années 60 à la clinique de Sceaux. Et il avait l'habitude donc de téléphoner parfois à son ami lorsque nous étions ensemble pour nos journées studieuses, pour nos écrits. Et il disait à André, « Ah tiens, je te passe Elisabeth, elle voudrait creuser cet aspect, ce concept. » Et j'avais André Ruffio au téléphone qui me... Je me rappelle de phrases tellement soutenantes, généreuses. Elisabeth, tes travaux sont très importants en périnatalité. Il faut chercher cette âme familiale qui traverse les générations. Et c'est vrai que ces phrases résonnent encore en moi et je voudrais, bien sûr, comme ce colloque dédie à André Ruffio tous nos échanges, je voudrais aussi dédier mon exposé à l'amitié qu'il y ait Gérard de Scherf et André Ruffio. Donc je vais vous présenter le cas clinique d'une famille suivie en thérapie il y a maintenant beaucoup plus de 10 ans, commencée après la naissance du deuxième enfant et terminée dans les mois qui ont suivi la naissance du quatrième enfant. Nous allons voir comment, dans cette famille, les aînés ont des symptômes exacerbés dans les mois qui suivent les naissances. Dans la famille, l'agir prime sur les associations libres. Je lis, mais j'ai mon truc au milieu. La famille est dans l'impossibilité de faire cette régression périnatale nécessaire vers ses racines et elle présente ce que j'ai appelé le voyage blanc de la grossesse. Elle ne peut réaménager le matériel générationnel. L'appareil psychique familial, cette âme de la famille, se mobilise défensivement pour lutter contre les retrouvailles avec la psyché familiale primitive. Nous verrons comment progressivement cette famille va se réapproprier son histoire, notamment avec quelques extraits de séances. Elle va se réapproprier son histoire dans cet espace onirique commun nécessaire pour la remise en mouvement d'une temporalité groupale. Nous verrons aussi quelques aspects et vous vous associerez aussi sur ces aspects, si vous le souhaitez, des aspects de la rêverie et du contre-transfert du psychanalyste de la famille impliqué au plus profond de cette histoire qui se retisse et qui va aussi, de façon croisée, rêver la famille en dessinant les rêves de la famille. On ne va pas garder un des tableaux, là, parce que ça va nous... Mais on en reparlera. De toute façon, vous l'avez tous sur le petit triptyque, un des tableaux de rêves de la famille. On peut l'éteindre pour... Parce que comme M. Darmon part, on ne l'aura pas, mais je voulais vous le mettre avant. Au départ, la communication intrafamiliale est opératoire. Le fonctionnement fantasmatique semble bloqué. Comme dit Ruffio, la communication se déroule sur un fond afantasmatique. Les faits sont déposés de façon factuelle. La circulation de la pensée semble engluée dans le présent. La déliaison est au travail pour lutter contre les angoisses de perte et de mort familiale. Le clivage semble vouloir figer un matériel générationnel qui reste forclos ou encrypté. Les aspects oniriques sont absents. Il n'y a pas de rêve au début de la thérapie. Quelques cauchemars apparaîtront, mais resteront au début isolés et blanchis, dans un interdit de les penser ou de les partager émotionnellement. Je ressens dans mon contre-transfert des difficultés à aller voir dans cette famille. J'ai des émotions, mais contrairement à ma pratique, je me sens au début impuissante à les utiliser devant ce matériel désaffectivé, cauchemardesque, on pourrait dire aussi, devant cette psyché familiale qui produit du froid dans les liens, de la confusion et de l'indifférencié. Pourtant, j'éprouve aussi du plaisir à nous retrouver ensemble tous les 15 jours. Je vais en écho avec l'organisation défensive familiale, rentrée dans l'ici et maintenant des séances, bombardée aussi par le silence assourdissant de la souffrance familiale ancestrale. Au début, la demande explicite concerne d'abord Mathis, presque 3 ans, qui présente, après la naissance de la petite sœur, un collage pathologique, un collage corporel avec la mère, ainsi qu'une inhibition nouvelle des angoisses et un arrêt de son langage. Ces régressions sont normales autour de la naissance d'un puits né, mais c'est quand elles insistent qu'elles montrent peut-être des fragilités et des angoisses familiales. Mathis est en effet dernièrement massivement angoissé à l'école. Il est totalement silencieux ou parfois il hurle de terreur. La famille vient sur les conseils de la maîtresse, inquiète pour cet enfant, pratiquement mutique à 3 ans. Il baragouine un peu à la maison. Ses nouveaux comportements ne semblent pas poser de problème aux parents qui le comprennent suffisamment et qui semblent eux-mêmes bénéficier de cette nouvelle proximité avec l'enfant. Dès les premières séances, Mathis se cache le visage en se nichant dans le soutien-gorge maternel, ou bien il s'enfonce en tamponnant tête première sous les jupes de la mère assise qui écarte alors ses cuisses. Il rampe aussi dans le canapé derrière le dos, ou sous les fesses de la mère en la pressant pour ne faire qu'un avec elle. Durant le premier entretien, à peine vais-je apercevoir son visage et j'ai l'impression d'un moi sans frontières corporelles, même un moi familial sans frontières. Mathis ne produit aucun son, mais parfois sa main émerge devant la bouche maternelle, par l'arrière là, qu'il bâillonne afin de la faire taire, ou devant ses yeux pour qu'elle ne voie rien. La mère réagit mollement à ce manège. Arrête, arrête. Et le père laisse faire silencieusement au début en regardant la scène d'un air satisfait et béat. Il ne peut pas prendre une place paternelle et nous comprendrons plus tard par la suite qu'il semble bénéficier à travers son fils de cette proximité maternelle chaleureuse qui lui a manqué dans l'enfance. Le bébé, Laura, âgée de 6 mois au départ de la thérapie, est une petite fille qui paraît déjà bien autonome, peut-être trop. Sage, éveillée, comme Mathis l'était avant ses 2 ans et demi. Souvent installée sur le tapis de consultation, calée par des coussins, elle peut s'endormir longuement pendant la séance, ou bien attentive aux jouets, à ce qui l'environne, et lorsque la thérapeute s'adresse à elle, son corps et ses yeux répondent gaiement aux sollicitations, puis elle s'efface à nouveau lorsque le groupe se recentre sur Mathis. La fusion mère-bébé semble ici inexistante, et l'image d'un satellite autonome à côté du corps familial pour Laura me traversera l'esprit. Nous apprendrons plus tard que la mère prend systématiquement, après chaque accouchement, 1 semaine de congé, seule et loin de la famille. Mais que demande profondément cette famille derrière cette première demande explicite? Quel est le mythe qui organise cette famille, qui la protège ou qui l'enferme dans ces liens paradoxaux? La demande serait que le thérapeute répare ce morceau d'elle-même qui dysfonctionne et que le regard de l'institutrice a dévoilé, ceci sans toucher à son organisation défensive, qui semble l'étayer mais l'immobiliser aussi dans le temps. J'aurais aussi l'impression d'une famille qui cherche à survivre dans un modèle hyper idéal, en contre-image peut-être avec les familles anciennes pleines de malheurs. Je ne vois pas de désir d'avenir dans cette famille, pas de mythe souple, évolutif, étayant, sauf celui de se coller à cette image familiale inconsciente, idéalisée pour ne pas couler. La famille semble aussi me saisir adhésivement comme une bouée de sauvetage pour s'immobiliser en surface. C'est une image que j'aurai plus tard, alors qu'il y a encore collage de la famille dans le néo-groupe là. Au départ, ce collage quasi incestuel du petit garçon avec sa mère me fait coéprouver dans cette famille des sensations, des scénarios, sensations, enfin j'y reviendrai plus tard. Et en tout cas, ça me gênera aussi dans mon contre-transfert. Voilà, et dans mes sensations, c'est ce que je voulais dire. Je me dis que la famille n'a pas à laisser voir ça, n'a pas à montrer cela. Mais bien sûr, j'avance d'abord doucement, intuitivement, au rythme de la respiration familiale, des jeux et des dessins collectifs faits ensemble avec les parents, qui racontent d'abord le comportement de l'enfant. À partir de ce que je vois et entends, j'énonce « Oh, il ne veut pas se montrer. Coucou, il a peur de se séparer. Mais c'est un petit kangourou. » Dans sa maman, nous faisons des dessins qui portent sur des bébés animaux collés comme le kangourou. Puis des images surgiront dans les dessins parentaux comme celles de bébés ou de mamans animaux abandonnés. Mathis viendra apercevoir dans de brèves incursions ses productions en y injectant des mots à peine audibles. Peur, bobo. Puis il retournera vite se cacher lorsqu'on s'adresse à lui. Plus tard, il proposera des peurs de loups, de dragons pour les dessins collectifs et que tout le groupe familial enfermera en traçant des cages. Quand tout le groupe familial se regarde à quatre dans le miroir au bout de nombreuses séances, je sens déjà que la thérapie a offert une première fonction de contenance. Mais ce reflet du miroir me semble encore sans mémoire. Ce n'est pas encore un miroir onirique familial. Pourtant, les groupes d'origine ont commencé à prendre forme. On évoque d'où l'on vient. Les traumatismes transgénérationnels s'extériorisent, donnant un premier éclairage au thérapeute sur les organisations défensives de la famille. Le collage pour ne pas se perdre, les refus de parler pour maintenir le lien différencié, l'immobilité pour ne pas réveiller des deuils non faits de parents ou d'enfants décédés dans les familles réciproques. Dans l'incapacité à mentaliser la question de la perte, la famille reste aliénée par le matériel ancien et les parents continuent d'organiser leur parentalité confuse. Parentalité confuse dans la mise en place de liens de proximité pour ne pas se séparer ou de mise à distance de ses besoins et de ceux de l'autre pour ne pas risquer de revivre les pertes. L'arbre généalogique dessiné par les parents restera longtemps squelettique avec des personnages longilignes, sans volume, ne pouvant s'élargir au-delà des 4 membres puis 5 membres de la famille restreinte. C'est bien plus tard, vous entendez mieux là, que le père demandera « Sur cet arbre, on peut mettre les morts, mais comment on les dessine ?» Mais si les traumatismes innommables auparavant se retrouvent, les émotions restent encore gelées dans un clivage avec mise à distance des affects. Comme le montrent Françoise Aubertel et Francine André-Fustier, la famille semble prisonnière de modalités de communication et de transmission qui empêche la construction d'une histoire parce que des événements inintégrables dans une chaîne de sens sidèrent les capacités d'élaboration de la famille. Je ressens souvent moi-même l'impossibilité de revenir sur ce matériel sidérant avec le fantasme de casser des alliances, de blesser des enfants si l'émotion s'en mêle. Je ressens, c'est là que je voulais en parler, donc cette exposition de scénarios sensations que transmet la famille et que Gérard a apporté dans ce concept de scénario sensation, même de cauchemar du jour. Et j'ai l'impression en effet que c'est un rêve agi que j'observe. Je ressentirai aussi des effets d'étonnement et de bizarrerie avec cette famille, comme ce jour où Mathis entre le premier dans la salle de consultation alors que les parents sont en train de ranger la poussette dans le couloir. et pendant les quelques 3-4 secondes, 5 secondes où nous serons ensemble, alors qu'il baragouine et que je n'arrive pas à comprendre un mot que parfois les parents traduisent, il va me dire de façon claire et nette, moi, je ne parle pas quand maman est là. Alors que mon expérience m'amène souvent à reprendre ces non-sens et à accompagner les douloureux remaniements psychiques, notamment en périnatalité, j'ai toujours cette pensée qui parasite, qui m'habite longtemps dans cette première tranche. Ces enfants ne peuvent pas voir cela. On ne peut pas parler des traumatismes quand les enfants sont là. On ne peut pas parler devant eux. Mais de quels enfants s'agit-il ? Les enfants d'autrefois ? Des parents-enfants ? Pourtant, le préconscient va déposer un matériel traumatique en séance de façon récurrente. J'ai du mal à les traduire, comme les dessins de spirales sans fin faits par Matisse, ou les tonneaux en spirale dessinés par la mère lors d'un accident de voiture quand sa sœur aînée est morte a trouvé la mort à ses côtés. Par ailleurs, Matisse, qui adore les toupies, tourne sans arrêt aussi pendant la consultation sur lui-même, sans qu'au départ je fasse de liaison avec ses spirales ou avec l'escargot qui est son totem en classe. Ces éléments, comme d'autres, bombardent les séances, mais les liaisons restent difficiles, en raison peut-être du blanchiment des affects de la famille et dans ce saisissement où on m'oblige à faire alliance inconsciente. Enfin, où, pas oblige, mais où je suis saisie par cette alliance inconsciente. Moi-même, je rentre dans les non-dits communs, dans ce mythe familial figé, je me laisse prendre dans cette construction imaginaire qui lutte peut-être contre l'éclatement du groupe. Mais prendre le temps pour tisser ensemble une histoire va se révéler aussi opérant pour cette famille, attachée à notre néo-groupe qui les contient en connaissance des faits, mais peut-être pas encore dans la reconnaissance des vécus. Néanmoins, après presque deux ans de travail, la famille fonctionne déjà beaucoup mieux. Matisse est devenu un petit garçon éveillé, avec un très bon langage, on l'avait soupçonné, et Laura se développe bien. La mère, enceinte d'un troisième enfant, est fatiguée pour faire les déplacements, et dans une certaine sécurité, la famille qui se sent plus solide pense arrêter la thérapie. D'un commun accord, la thérapie est suspendue, mais je redis que je reste à disposition pour faire un autre bout de chemin ensemble, s'ils en ressentent la nécessité, car le travail me semble vraiment pas terminé. Contrairement à ma pratique qui pose des indications de prise en charge du groupe familial en périnatalité, je laisse sans me rendre compte la famille s'éloigner pendant cette période de crise féconde pour les réaménagements psychiques. Cette mise à distance défensive évite les régressions nécessaires à la réorganisation du matériel générationnel et témoigne de la problématique de cette famille en difficulté pour traiter les affects groupaux primaires pendant les grossesses. La famille revient après la naissance du troisième bébé né pendant l'été, pour une autre tranche de thérapie qui va durer alors plusieurs années. C'est la rentrée de Matisse en CP, la maîtresse est très contente car il va bien, épanoui et sérieux, il est posé et saura faire un peu d'humour en séance. Mais ce sont de nouveaux comportements, c'est la deuxième, Laura, qui déborde les parents depuis la rentrée des vacances et la naissance du troisième bébé. Elle se met en danger, a fait une chute dans un escalier cet été après la naissance. Son hospitalisation a provoqué beaucoup d'effrois familiaux. Les parents expliquent. Laura est bizarre, elle fait des crises de désobéissance, des colères, et surtout, elle écrit partout sur les murs, dans sa chambre, malgré les interdits. Ou bien elle se déshabille et entièrement nue, elle se crayonne de feutre, souvent rouge et noir, sur tout le corps et le visage. Les inscriptions me font penser aux travaux d'Evelyne Grandjean, où le sujet se trouve à avoir la charge d'une partie non explicite et non accessible de l'histoire d'un autre et dont il doit écrire les pages laissées blanches. J'ai déjà travaillé dans un article sur ces tatouages infantiles qui continuent de parler de l'irréprésentable familial et qu'on peut entendre comme une véritable saga qui relate les souffrances de la famille. Donc je ne vais pas m'étendre sur ce travail d'appropriation de la mémoire groupale, sur cette créativité des premières figurations dans le chemin de l'indifférenciation à la différenciation. Je vais revenir sur cette famille avec Laura qui est rentrée en maternelle, belle enfant, attentionnée pendant les séances. Elle s'assoit bras croisés, sans timidité, en écoutant ou en regardant son frère dessiner. Elle s'amuse seule avec les jouets, souriante, elle dit oui à tout en hochant la tête. Mais elle présente un blocage du langage qui rappelle celui du frère aîné au même âge. Je constate qu'elle n'a pas du tout progressé dans ce domaine sur plusieurs mois. Quant au troisième bébé, Il semble déjà bien sage, il est facile et me rappelle Laura qui s'effaçait dans les séances. C'est seulement progressivement qu'il prendra sa place dans la groupalité de la famille et peut-être du néo-groupe lorsque nous pourrons remettre en route les fonctions de l'appareil psychique familial vers un possible travail de liaison des affects. Alors voilà, à ce moment-là, maintenant, je vais vous mettre quelques extraits de séances pour illustrer ce processus-là qui s'enclenche. Toute la famille est présente à cette séance, comme très souvent, et l'on parle à nouveau des traces de feu sur le corps de Laura. Le père rationalise. On lui a expliqué comment un corps fonctionnait. Elle veut sûrement représenter les fluides dans son corps. Mais Mathis, futé, ajoute « Mais moi, j'ai pas vu de sang couler quand elle est tombée. » Elle croyait qu'on n'allait pas la voir faire ça. Laura, qui a sa poupée dans les bras, couverte de traces de feutre aussi et de pansements, se lève et vient me la donner en disant « Bobo ». Le premier temps de la séance porte alors sur ses blessures et le feutre rouge, sur la poupée qui évoque peut-être le sang et le bobo à soigner. Je propose alors à la famille de dessiner sur papier cette poupée pleine de sparadrap. Laura prend aussi les feutres et pour la première fois, elle dessine toute seule sur un support papier, en crayonnant dans tous les sens. « Bobo, trou », dit-elle. Les parents expliquent qu'elle parle aussi des chutes dans la mer, de cet été, de sa chute dans l'escalier. Cet accident va être crayonné aussi, hachuré collectivement par la famille. Je m'interroge silencieusement sur les corps mutilés, les souffrances présentes et anciennes qui se montrent sur cette table de dessin. Les tracés en tourbillon me rappellent enfin le jeu sans fin de la toupie qui fascinait Matisse plus petit, ainsi que les dessins en spirale des tonneaux de la voiture. Je fais le lien et je propose de ressortir du dossier ces dessins familiaux des années précédentes qui sont un peu à l'identique des spirales et ils vont servir de support aux échanges. Les effrois familiaux vont pouvoir s'exprimer avec beaucoup d'émotion dans cette séance. « Je savais qu'à 2 ans et demi, il allait lui arriver quelque chose », dit la mère en parlant de Laura. Elle reste dans les confusions. Elle associe aussi sur ses efforts pour ne pas faire passer ses émotions chargées d'angoisse terrible. Le père associe en évoquant les drames de sa petite enfance, de sa propre famille d'enfance. Il ne faut pas tomber là-dedans pour protéger ses enfants, dit-il. Mais la mère ajoute, parfois cela passe de l'autre côté. Dit la mère. Il n'y a pas de place pour les deux côtés à la fois. C'est l'un ou l'autre. J'imagine soit l'enfant vivant, soit il est mort. Avant cela, dit-elle, mes émotions gagnaient et j'arrivais pas à me contenir maintenant. Après cette séance, la compulsion de Laura à écrire sur les murs et sur son corps à la maison va cesser. C'est à la séance suivante, à l'étonnement de tous, qu'elle fera pour la première fois une belle ébauche de bonhomme tétard. Elle formera sur le papier des ronds, notamment avec chaque membre de la famille, et le rond qui la représente a une encoche. « Trou », dit-elle. Au début de cette séance suivante, Laura avait sorti de son petit sac des tongs de plage garnis de fleurs en plastique. Ah, toute fière, elle voulait vous les montrer, dit la mère. Oh, les deux jolies tongs fleuries, m'entends-je dire en pensant aux tombes de la famille. En fin de séance, et étrangement, la mère évoque les deux tombes de ses sœurs mortes qu'ils ont été dernièrement fleurir avec les enfants. Des tombes fleuries. Monsieur ajoute qu'il accompagne aussi ses neveux sur la tombe de leurs parents. Progressivement, l'histoire est racontée, élaborée avec émotion. Elle se déploie dans leurs présentations partagées, dans l'arbre généalogique, les dessins collectifs ou les jeux. Les associations sont enfin possibles dans un partage onirique et surtout, et enfin, autour des rêves. Je vais terminer par ça. Ces derniers deviennent des supports de lecture pour le transfert, les organisations familiales défensives. Dans une séance, Mathis nous parle de son rêve. Dans la cave, il y avait 2 dragons. Et la nuit, ils montent dans ma chambre. C'est des bêtes qui mangent papa et maman. Ça fait peur. Je me retrouve tout seul. Peur, dit Laura, qui écoute aussi les échanges. Le père continue sur des angoisses de séparation. Dernièrement, moi aussi, j'ai rêvé. Je perdais toutes mes dents. Il faut serrer les dents dans la vie. Partir, c'est perdre et c'est angoissant. Mais on est libre. Il se décrit comme un enfant timide, se cachant pour sucer son pouce jusqu'au collège, élément qui fait bien rire Mathis dans les séances. Il évoque les lourdes solitudes de l'enfance, les disparitions d'un frère et d'une belle-sœur, laissant des enfants sans parents. Nous apprendrons que le couple de cette famille, avant de fonder leur famille, a élevé ses neveux orphelins. Moi aussi j'ai rêvé, poursuit la mère dans cette séance. Mais avant de relater ce rêve, je voudrais vous dire quelques mots sur ces moments parfois intenses lors des exposés des rêves de la famille. Et je peux moi-même en effet faire des rêves en lien avec le rêve de la famille. J'ai aussi l'habitude, en prenant des notes en post-séance, donc de dessiner l'arbre généalogique, un peu des fois très dessiné. Mais parfois, je me donne le temps aussi de crayonner une représentation de la famille, un émoi, un sentiment sur le transfert ou sur mon contre-transfert, où je dessine aussi un rêve de la famille. Certaines de ces esquisses, ces ébauches, peuvent déboucher aussi sur quelques tableaux. Bien sûr, vous avez vu un des tableaux là, et c'est celui du rêve de la mère sur la famille, donc je vais terminer là-dessus. J'ai l'impression, quand je dessine, de raconter alors l'histoire de la famille que j'ai pu approcher, à un niveau peut-être préconscient, inconscient, en tout cas dans un accordage qu'on a trouvé ensemble et qui me fait que je sens que je fais partie de la famille. Cela m'évoque les travaux de René Cahet sur la polyphonie du rêve, qu'il a si bien introduit dans sa théorie tout à l'heure, où ça me rappelle aussi ce que cite Anzieux concernant la façon dont les Esquimaux traitent l'ensemble des songes d'une nuit dans un même igloo, qu'ils considèrent comme un seul discours tenu par la collectivité à travers chacun des membres. André Ruffio ajoute que le thérapeute se sent à la fois igloo contenant, l'Esquimau à l'écoute du rêve et l'étranger aussi. C'est la sensation que me donnent mes dessins, qui à la fois racontent et contiennent le rêve, dans cette fonction unirique, le rêve de la famille, que je regarde aussi de l'extérieur, avec son étrange et son inconnu qui se raconte. Ces dessins ne cherchent pas à aligner les faits du rêve, c'est souvent une ambiance, un mouvement qui prend forme au fur et à mesure, comme le déroulé d'un rêve. Des éléments de la problématique familiale peuvent alors apparaître à mon insu, me surprendre, avant que ce soit entendu dans le néo-groupe. Ces productions sur le matériel familial m'apportent encore matière à penser et m'aident sûrement au traitement à la famille et peut-être aux nouvelles alliances dans le groupe, comme citait KS tout à l'heure. Si le groupe est un rêve, selon mon yeux, ce tableau de peinture est pour moi aussi une sorte de rêve dans la polyphonie des rêves avec la famille. Les tableaux servent de zone privilégiée et deviennent, comme le décrit Ruffio pour le rêve, un lieu primordial de communication inconsciente, de portage de la psyché par le thérapeute qui porte la psyché familiale dans le holding onirique de la thérapie. Pour cette famille, donc, je voulais partager avec vous ce tableau qui raconte le rêve de la famille par la mère. Vous l'avez aussi sur le petit programme du cryptique, puisque c'est ce tableau qui a été voté en CA, qui a été choisi par le CA. Il faut les voir plutôt comme une production onirique qui vous permettra aussi peut-être d'associer, comme on le fait sur les dessins d'enfants ou les productions oniriques de la famille qui sont de l'ordre d'une rêverie groupale. Donc la mère, dans cette séance, apporte son rêve. Vous allez voir que c'est un rêve très transférentiel. Je me sens dans son rêve aussi, notamment dans l'histoire des regards. Dans mon rêve, nous étions jugés en tant que père et mère pour être exécutés à mort. D'autres familles étaient observées comme parents et passaient aussi devant le juge. Vous avez vu les yeux là tout à l'heure. Nous sommes condamnés, mais mon mari, qui a sa fortune personnelle, achète le juge et il est sauvé de l'exécution. Moi, on m'enferme dans une grande pièce ronde, transparente, pour être exécuté avec d'autres parents. C'est une bulle publique et on nous voit à travers la fine paroi translucide. On nous explique qu'on ne doit pas avoir peur car l'exécution est immédiate. On sera instantanément réduit à l'état de cendre par un mécanisme chimique implosant la bulle de l'intérieur. Mon mari gracier me regarde d'un balcon en souriant et tente de me rassurer en me disant que le lendemain, il viendra se rouler dans mes cendres car on ouvrira la porte aux familles. Bon, plein de choses, mais je vous laisserai aussi les pensées, arrivent, me feront dessiner ce rêve-là. À partir de ces rêves partagés, aux espaces infinis et créatifs, le néo-groupe accompagne la famille Et dans les séances suivantes, la famille va associer sur les pertes, sur la peur de reproduire, sur le regard et la peur d'être jugée et punie, ce qui m'a fait dessiner ses grands yeux notamment. Dans le transfert, on touche à la peur d'être regardé et jugé comme mauvais parent par le thérapeute familial. Ce dernier pourrait avoir le regard qu'ils peuvent porter sur eux comme parents. Comme eux, on peut être jugé aussi leurs propres parents. Mon père était au volant de la voiture après un déjeuner bien arrosé quand il y a eu l'accident où ma sœur est morte. Autrefois, on ne faisait pas attention à l'alcool au volant. Le regard porté sur leurs propres parents sera évoqué, mais avec un déni de la haine et du désir de meurtre. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mes parents. Nos parents, parce que lui aussi parlera de ses parents. On entrevoit là encore l'aspect de sidération devant l'imago terrifiant de parents combinés meurtriers, ou bien qu'on pourrait faire mourir, avec la chaîne associative qui peut en découler. Peut-être le désir de mort groupal de se rouler aussi en commun dans ses cendres, hein, qui m'a fait dessiner un escargot sans que je m'en aperçoive d'ailleurs. Les parents vont s'interroger sur l'enveloppe fragile, les incompétences parentales, sur les manques de protection, sur la mort et les accidents qui peuvent surgir en réduisant une famille à néant en un instant, ou sur les jours d'enterrement où l'on ouvre la porte aux familles qui viennent se recueillir sur les tombes et se rouler sur les cendres des morts. La mère évoque la place du mort quand elle était petite dans la voiture. Pourquoi ma sœur et pas moi? Car quelques minutes avant, nous avions échangé nos places dans la voiture. On s'interroge aussi sur le non-dit aux enfants et les effets traumatiques. Le registre a changé de niveau. Le groupe est transformé. Il n'éprouve plus la crainte des effets de parole. J'avais éprouvé en effet beaucoup de pensées sur ce partage des blessures groupales innommables, notamment avec les enfants. Les enfants pouvaient-ils entendre ces scènes d'autrefois qui pouvaient leur faire mal à l'image d'une petite fille qu'on éloigne de la tombe de sa sœur? Les enfants ne peuvent pas voir ça. L'histoire des familles réciproques sera reprise dans les séances suivantes, mais cette fois-ci avec des affects adéquats. Madame a expliqué qu'elle avait 6 mois et que sa sœur aînée avait 6 ans lorsque décès d'une première sœur de 2 ans, morte de maladie, 2 ans, 2 ans et demi justement. Les parents endeuillés s'appuient sur la grande sœur tendre et sérieuse. Et quand Aline a 6 ans, c'est un accident de voiture qui arrache la vie à cette sœur aînée, laissant Aline seule avec des parents écroulés qui ont perdu donc leurs 2 filles. Naîtra après un petit garçon, bébé de remplacement, qui va accaparer la mère d'Aline. Elle se rattrape sur mon frère, dit-elle. Mais c'est pour ma mère 2 enfants vivants sur 4, contrairement à moi qui fais mieux qu'elle, dit Aline. Elle fera enfin... Cette famille aura en fin de compte 5 enfants. Pour terminer, je cite un dernier passage d'une séance qui nous éclaire encore. Lorsque la mère partage ses émotions en racontant sa grande sœur mortellement blessée à ses côtés. C'est une émotion forte que je voudrais vous partager aussi, partager avec vous. Elle va évoquer l'enterrement et sa solitude. J'ai toujours voulu raconter cette histoire, mais avant je n'y arrivais pas. Elle se souviendra de cet accident comme si c'était hier. Au moment où l'on a descendu le cercueil dans le caveau, je me suis faufilée entre les gens pour voir. Mais une fois devant, ma tante m'a prise par le bras très fortement en me faisant mal et m'a tirée en arrière en disant que je ne devais pas voir ça, que ce n'était pas pour les enfants. Vous sentez mon émotion là qui monte quand elle me dit ces phrases que j'avais notées déjà dans mes notes. J'avais vu qu'elle pleurait, ma tante, et je me suis retrouvée toute seule derrière tout le monde. C'est plus tard que j'ai appelé ma sœur, puis que j'ai hurlé en comprenant que je la reverrai plus jamais. Elle racontera sa douleur et le silence fait par sa famille qui la laisse dans l'incompréhension, le non-sens. Pendant la séance, le récit de la mère donne beaucoup d'émotions au néo-groupe. Le père a 2 enfants sur les genoux et tout le monde écoute. Je repense moi-même aux phrases que j'avais notées, les enfants ne doivent pas voir ça. Mathis, assis à côté de la mère, lui caresse les cheveux en ressuscant son pouce. Et sa mère lui dit, tu veux soigner les bobos, ceux de maman? Tu es alors ma mère. Ce ne serait pas pour me déplaire, mais non, il faut que j'y travaille encore. Aline, de son côté, va entreprendre une analyse personnelle à cette époque. Un long travail se poursuivra dans cette famille jusqu'à l'arrivée du quatrième enfant dans les mois qui suivront. Et nous travaillerons alors aussi sur la différenciation des sexes. Mais ça, c'est l'objet d'une autre recherche. Je voulais accentuer sur ces rêves qui apparaissent pour cette famille. Voilà.
Voilà. Bon, alors Elisabeth, merci beaucoup pour ton exposé qui est long et très, très travaillé et suscite mon admiration dans le sens où tu as travaillé pendant 10 ans. Et alors, du coup, je trouve qu'effectivement, c'est une longue, longue thérapie familiale. Alors, peut-être que la question qu'on peut se poser, effectivement, comment est-ce qu'on peut arriver de la situation initiale où il y avait absence des fantasmatisations, beaucoup de comportements, beaucoup d'agir, à une période qui est riche en rêves et en liens fantasmatiques et associatifs? Comment arrive-t-on du gribouillage à la trace et du traumatisme à la représentation? C'est un peu le travail que tu as fait pendant toutes ces longues années. L'autre chose que je voulais souligner, c'est aussi dans quelle mesure les difficultés de cette famille t'ont touché, hein, et ce qui fait que aussi on a envie de travailler justement sur les familles qu'on touche plus directement. Hein, et comment tu t'es laissé aller à des rêves et à des mouvements et à des moments bruts, je dirais, hein, à des moments où des phrases qui t'apparaissent, comme par exemple tu dis au début. Voilà, il faut pourquoi ils me font voir ça, qu'est-ce que, donc là on sent bien que c'est quelque chose qui te frappe à ce moment-là sans pouvoir dire plus que ça, hein, sans pouvoir aller plus loin, mais tout en gardant cette phrase-là dans ta tête. Alors moi je vais juste dire 3 choses par rapport à ton cas. Alors ce qui m'a le plus intrigué, effectivement, ce sont les gribouillages de la petite fille sur son corps, hein, dans la mesure où, effectivement, il sent les signes d'une énigme, hein, d'une trace à décrypter, à déplier, etc. Alors, d'un point de vue plus général, ces gribouillages figurent aussi, et précisément parce qu'ils sont dans le corps, ce que Ruffio présente comme une non-intégration psyché-soma, hein. Lorsque des vécus corporels ne sont pas inscrits, lorsqu'ils ne subissent pas la fonction alpha, maternelle et familiale. Lorsque le corps reste en état de autogestion, pour ainsi dire, par rapport au psychisme. Ce symptôme, il apparaît dans cette famille d'une manière ou d'une autre, dans tous les moments où le corps occupe un moment princeps dans l'histoire familiale, c'est-à-dire dans des moments de grossesse, naissance, etc. Ce sont des moments importants dans la vie de famille, des moments qui sont justement de réunion et des réunifications de la famille, où la famille se concentre, se réunit. Hein. La famille fait corps à ce moment-là, ce qui me paraît absent dans la description de celle-ci. C'est-à-dire que, par exemple, au contraire, dans ce moment, la mère disparaît pendant une semaine après la grossesse. Donc là, on sent bien qu'il y a le mouvement de dispersion et pas justement de concentration. Hein. Donc, ça apparaît comme un moment de détresse et des souffrances liées à la séparation. Bon, ça, on a bien compris. Et des mécanismes puissants pour nier cette séparation. Hein. Donc, on peut dire qu'il s'agit bien d'une problématique familiale qui apparaît comme un signe d'interrogation lié au droit à la vie. Hein, et plus loin, peut-être au droit à avoir une famille. Hein, c'est un peu ce qui me semble apparaître dans cette famille. Alors, la deuxième chose, c'est que je voulais te poser comme question, c'est qu'est-ce que tu as pensé de l'interruption de cette famille? Parce que vu le long travail effectué, cette conscience, cette rupture doit avoir un sens. Peut-être tu pourras expliquer un petit peu plus comment on peut interpréter, hein, la troisième chose que je voulais aussi faire part, c'est la lenteur pour arriver à créer des liens. Hein. un travail très très difficile pour dépasser les barrières des multiples traumatismes que cette famille a vécu dans le temps. Alors, je voulais vous montrer, pour vous montrer que les chaînes associatives oniriques peuvent se dérouler et s'interpréter d'une autre manière, j'avais envie de vous parler brièvement d'une séance avec une famille que je vois depuis pas très longtemps, où le holding onirique est apparu de façon très différente et aussi très rapide, à ma grande surprise. Parce que là, on voit le travail long. Là, c'était vraiment autre chose. Bon, je ne vous étonnerai pas si je vous dis que cette famille n'a pas le même degré, n'est pas atteinte de la même manière que la tienne, s'agit quand même d'un haut degré de névrose, quand même. Alors, pour vous donner juste quelques éléments, c'est une famille envoyée en thérapie familiale car la psychothérapie individuelle de la jeune fille de 11 ans en CMP ne marchait pas. Donc la famille vient au premier rendez-vous et les problèmes sont abordés tout de suite. Je constate que c'est une famille qui a l'expérience des consultations au CMP, donc ça va un peu vite. Le père se montre quand même un peu réticent et la mère très volubile. Les parents s'adressent à la fille par son prénom et elle rejette ses prénoms. Elle dit « Je ne me nomme pas comme ça, je me nomme autrement ». Elle se donne un prénom qui n'est pas un prénom de personne, c'est un prénom d'objet. Les parents sont furieux et ils ne comprennent pas. Alors, le père, c'est un homme assez frustre. Il déclare en même temps... qu'il s'est bien débrouillé dans la vie, il vient d'un pays de l'Est et a dû se reconvertir totalement. Il se plaint du comportement de sa fille, mais insiste qu'elle fasse de la compétition dans la natation, domaine où il était champion à une époque. La fille manifeste son intention de ne pas faire autant ou d'arrêter, on ne sait pas très bien. Il y a un petit frère dont le fonctionnement est bizarre, il ne répond pas aux questions, il a 5 ans et demi. Il ne fait que du gribouillage que je n'arrive pas à comprendre et il apparaît un peu hors du monde. Alors, les séances sont difficiles, madame pleure fréquemment tout en disant qu'il ne faut pas s'inquiéter, qu'elle pleure tout le temps pour un rien. Elle a une mère qui l'a abandonnée, mais elle ne veut pas en parler. Madame pleure, la fille s'approche pour la consoler, mais à la maison, c'est la guerre entre la fille et la mère. Monsieur dit qu'il s'en veut de ne pas être intervenu plus tôt entre ses enfants et la mère, qui collait à eux sans pouvoir s'en séparer pendant des années. Donc voilà, ça c'est un peu le tableau. L'ambiance des séances devient monotone. Pas précisément blanche, mais avec une répétition des plaintes sans association. Et moi, je me trouve assez bloqué. Chacun va de sa plainte ou de sa bizarrerie. J'ai le sentiment d'un fonctionnement familial anti-famille. Dans d'autres cas, la jeune fille essaye de tout diriger et l'empêche qu'on la prénomme, se moque de l'accent de son père, dit à son frère qu'il faut qu'il dessine, ordonne à sa mère de se taire par rapport à certaines choses dont elle ne veut pas en parler. Donc, la séance... Madame raconte que le fils a peur de la piscine, donc on est dans la natation, celle-ci étant une pataugeoire, c'était pas vraiment une piscine. Il reste dans cette constatation et moi je sens que je plonge dans la vase de la non-représentation, ça, je suis là. Donc je ne me sens pas bien et donc un peu pour m'échapper, une espèce de rêverie, je m'évade en pensant à moi quand j'étais enfant. Quand je commençais à nager, j'avais 4 ans et demi, avec beaucoup de plaisir, à mon frère qui avait peur, et de fil en aiguille, à une fois où mon frère m'avait, on était en train de nager, et mon frère m'avait attrapé par une jambe parce qu'il n'arrivait pas, et on a failli se noyer tous les deux. Donc je pense à tout ça. En séance, et je pense à cette mère envahissante et je me demande comment je peux rétraduire ça en séance. Alors j'ai dit ce qui me vient à l'esprit, que peut-être il pouvait sentir cette eau comme une peau qui montait et pouvait l'étouffer. C'est ce que j'ai dit. La fille réagit immédiatement, racontant un rêve, plutôt cauchemar, où elle était dans l'eau et était empêchée d'avancer. Ses jambes étaient bloquées et un animal la poursuivait. Ensuite, mais sans scansion, le père raconte un rêve, également cauchemardesque, où les persécuteurs s'acharnaient sur lui. Ensuite, c'est la mère qui raconte à son tour un rêve avec des animaux monstrueux qui la suivent. Alors, je reste abasourdie. Je n'espérais pas tant. Bon. Alors, je me dis, bon, comme il n'y a pas d'association après, je me dis, bon, c'est l'évacuation, quoi. Enfin, un peu comme KS parlait de la fonction évacuative. Hein. Mais ce tour de table crée en moi un sentiment assez mélangé. Ils mettent à ma disposition, et je mets à la leur, des contenus personnels, fantasmatiques. Une partie de ma famille devient une partie de la leur. Hein. Il y a des ressemblances. La fille aînée, c'est comme moi, petit frère comme mon frère, la natation qui est le sport un peu favori de la famille. Hein. Donc des éléments communs qui me touchent certainement. Hein. Mais ils trouvent entre eux des fantasmes communs persécutifs, un lien d'ordre fantasmatique s'est créé, évoquant des scènes primitives terrifiantes. Je prends la dimension, alors là c'est là où je suis, je prends la dimension du déferlement fantasmatique, individuel et collectif, que la famille produit, subit et retient, parce que c'est comme s'il y avait une espèce d'avalanche. Hein. Les souvenirs appelés par ma rêverie pendant la séance évoquent aussi la noyade et une mort possible, comme si la famille me disait qu'elle risquait la mort psychique. J'ai un sentiment d'inquiétude, mais en même temps, c'est à ce moment-là que je sens que j'ai fait partie de la famille, et un énorme sentiment de soulagement traverse la séance, et on sent que la famille se détend. Alors, comment comprendre cette séquence ? C'est une chaîne associative onirique. Ruscio parle de bombardement onirique qui exprime un afflux économique ainsi que le caractère persécutif des fantasmes. Ce bombardement m'apparaît comme une mise en commun sans associativité à ce moment-là, sur le moment, mais possibilitant des effets puissants, sensation de mise en commun, des déposés des éléments persécutifs, de partage et de soulagement. Tout cela est possible à cause de la constitution du néo-groupe. Hein. La question de la natation est un thème central de la famille. C'est le mythe du triomphe paternel et de son échec ultérieur. La toute-puissance paternelle par la natation. Lorsque le père dit qu'il s'est bien débrouillé et qu'il est bien comme ça, on décèle la dépression paternelle masquée que la fille dévoile en lui disant « Mais alors pourquoi tu es triste parfois ?» Le père est très surpris. Alors, moi, je me dis, c'est un tel déferlement que je ne sais pas ce qui a pu se construire ou s'élaborer à partir de là. La séance d'après, monsieur revient très content parce que sa fille lui a dit qu'elle l'aime, tandis qu'avant, elle disait qu'elle le détestait. On remarque aussi des effets sur le préconscient familial qui permettraient de considérer la natation dans son ambivalence, avoir envie et pas envie, l'une qui fait de la natation et l'autre pas, et surtout reconnaître de façon bienveillante l'échec du père et de son rêve. Il semble qu'une mythopoïèse différente puisse se constituer autour de la scène primitive et l'abandon du fantasme d'auto-engendrement de la fille, parce que la fille, elle s'est déclarée fille de personne. Hein. Elle s'est donné elle-même son prénom. Donc il y a constitution d'une scène primitive et la présence paternelle comme faisant partie de celle-ci. Voilà, je vous remercie.
Merci Elisabeth et Heidi pour ces deux exposés cliniques d'une très très grande richesse. Je crois qu'il y aura beaucoup à dire. Je voulais quand même juste, au passage, avant de donner le temps de parole à Pierre. Je voulais juste souligner quand même que vous insistez, je crois, à juste titre, au moment où les rêves apparaissent dans les séances, hein, dans le travail de thérapie familiale psychanalytique. Et je crois que, surtout dans l'exemple d'Aïdé, mais l'une comme l'autre, il y a quelque chose qui apparaît qui est important, c'est le travail de figuration du rêve. On en a peu parlé. Ah, excusez-moi, je n'étais pas au courant. Je ne savais pas, Pierre, que tu allais dire ça, mais je vous le dis avant lui, donc. Je pense qu'il y a ce travail de figuration. On insiste beaucoup sur le travail de représentation, hein, mais je crois que ce travail de figuration est un travail qui est tout à fait intéressant et important. Et en particulier, là, dans ce que tu appelais le déferlement, c'est vrai, il n'y a pas d'association et on est à la limite entre le cauchemar et le mauvais rêve, comme disent les enfants, parce que ce n'est pas la même chose, du reste. Hein. Et je crois que là, il y a un temps du travail d'élaboration qui est tout à fait important et qui est un des aspects du travail qui peut se faire dans le cadre du néogroupe. C'est donc Pierre Bengozy qui va discuter de ces deux aspects cliniques. Pierre est psychiatre, psychanalyste, membre de la PIF, de la Société française de thérapie familiale psychanalytique, de la SFPPG, de l'IFPP, de la IPCF et de l'IRP. Voilà. Il y en a d'autres ? Pierre, je te laisse discuter.
Il y a des affiliations. Hein. Oui, ça marche là, je ne sais pas. Oui, vous entendez ? Bon, merci. Oui, mais tu me diras. Hein, tu me diras parce que, comme je ne sais pas, je vous tiens pas ça. Voilà, donc, n'hésite pas, comme j'ai volontairement pas rédigé un texte, parce que d'abord parce que j'avais pas tous les éléments à l'avance. Je voudrais commencer par dire en quoi il faut vraiment remercier la Société Île-de-France de thérapie familiale d'organiser ces journées avec aujourd'hui ce bel hommage rendu à André Ruffio, avec vraiment tous ses apports, et j'étais depuis hier très, très sensible, en particulier évidemment par les apports de tous les gens qui ont plus directement côtoyé, qui sont plus dans une filiation plus directe. Et je voulais dire que la manière dont tout cela se présente est en soi l'illustration du caractère vivant de la transmission. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas là, je le disais hier à Laurence, il n'y a pas là quelque chose d'une espèce d'un plaqué, d'une répétition, d'un discours, mais à chaque fois, déjà un travail de reprise. Et je trouve que c'est vraiment, par la reprise en soi, un vrai cadeau que vous faites à celui qui vous a nourri. Alors, je voudrais dire aussi que je suis nourri de tout ce que vous avez dit depuis hier et évidemment de tous les exemples et des situations que vous avez proposées et évidemment de tout ce que nous a apporté ce matin René Caes. Ce n'est pas possible de ne pas en être complètement réinterrogé. Et je vais essayer de partager quelques réinterrogations en écho aux interventions que je viens d'entendre. Alors, sur en gros trois points, dont le fil rouge est justement ce qui me semble être l'importance du travail de figurabilité. Hein, c'est vraiment ça qui est pour moi l'essentiel de ce que j'ai envie de vous dire là. Mais comment ce travail de figurabilité, dans lequel il faut rendre hommage au travail considérable de César et Sarah Botella sur le travail psychique de figurabilité, me semble vraiment devoir traversé tout ce qu'on a dit, mais particulièrement dans la continuité de ce qu'a dit René Caës, particulièrement dans ce en quoi s'interroge notre pratique de thérapie groupale familiale. Hein, thérapie familiale psychanalytique dans sa spécificité et dans son originalité. Et c'est cette interrogation qui, alors peut-être là, en prenant quelques distances par rapport à ce qu'a évoqué sur la polyphonie des rêves René ce matin, va m'amener à questionner plus la différence entre le rêve et la rêverie. Et je trouve que là, il y a une différence qui est radicale et qui, nous, dans le cadre de la thérapie familiale, va avoir des conséquences essentielles. Et cette différence, elle va se retrouver d'emblée dans les modalités où nous sommes amenés à intervenir en thérapie familiale. Bon, moi, je suis psychiatre et pédopsychiatre, et ma clinique de l'enfant, de l'adolescent, de la famille va être centrée beaucoup plus sur des histoires pas névrotiques, en fait, hein, des histoires psychotiques, psychosomatiques au sens psychanalytique, la psychosomatique, au sens des addictions, hein, et des passages à l'acte et de l'inceste. C'est ça notre clinique. Et c'est cette clinique-là qui a rendu nécessaire pour moi le fait de faire de la thérapie familiale et qui a imposé parce que justement les autres approches ne me semblaient pas suffisantes pour aborder cette spécificité clinique. Et dans cette spécificité clinique, il faut repenser effectivement l'appareil psychique familial tel que l'interrogeait ce matin René Caës, mais peut-être un peu différemment. Il nous a parlé de cette articulation qui pour moi est essentielle entre ce que je propose d'appeler la dialectique du sujet singulier et sujet groupal. Il la présente dans une interface avec une porosité d'interface dans l'appareil psychique. Alors c'est extrêmement difficile à modéliser tout ça. Personnellement, j'ai tendance à la modéliser, mais ça n'est qu'un temps de mon parcours, sans doute que ce sera remis en question, mais enfin ça tient pour l'instant, et surtout ça tient dans la clinique. Je tends à le repenser plus du côté de l'étayage des contenants, et des contenants individuels par rapport aux contenants groupaux, familiaux. C'est plus un rapport, finalement, dans une approche moins de porosité, de proximité, que d'écart transcontenant. Hein, c'est quelque chose, Evelyne va s'y retrouver, parce que je reprends à ma manière la métaphore de la poupée russe. Elle a parlé de poupée gigogne. Bon, moi je le reprends au niveau des contenants poupée russe. Hein. Et cette métaphore-là, elle est tout à fait pertinente pour penser exactement la clinique que nous a proposée Elisabeth, hein, particulièrement, dans un premier temps. Ce qui est extraordinaire dans la clinique d'Elisabeth, c'est qu'elle ne s'intéresse pas à un symptôme en soi. Elle s'intéresse au fait que la survenue de ces symptômes se situe dans des temporalités particulières qui sont associées à la périnatalité. Bien sûr qu'elle est particulièrement intéressée à écouter ce chant-là, comme par hasard, évidemment. Hein. Mais il se trouve qu'à l'occasion de l'événement périnatal, un certain nombre de manifestations symptomatiques vont être portées par l'aîné. Par l'aîné. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, elle nous illustre en quoi l'événement périnatal est un événement à l'occasion de la naissance généalogique familiale qui remet en tension la contenance non seulement psychique individuelle de la femme enceinte, etc., mais également la contenance psychique du groupe familial, et en mettant en tension la contenance psychique du groupe familial, remet en tension l'ensemble des liens de ce que j'appelle le maillage généalogique, c'est-à-dire l'ensemble de ce que le maillage à travers le lien est support, c'est-à-dire la transmission et les impasses de la transmission. Donc là, on a dans cette histoire-là une illustration d'un travail autour de la contenance familiale dans ce que j'appelle des contenants en transformation. C'est assez différent dans la manière dont Elisabeth va s'utiliser. Elle va s'utiliser en tant que elle-même co-rêveuse, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir, grâce à quelque chose de l'ordre de l'esthétique de sa production, faire quelque chose où elle produit un dessin, elle se propose elle-même, et d'ailleurs c'est difficile parce que, je veux dire, chacun pourrait se proposer à sa manière, pas forcément d'être peintre, mais de se proposer, elle propose un accès à une figurabilité de ce qui est en jeu à ce moment-là. Hein. Et c'est là le travail onirique, c'est là le travail de rêve. C'est quoi la figurabilité ? La figurabilité, pour Freud, c'est celle qui permet de régler le paradoxe topique, justement, de l'inaccessibilité de l'inconscient au conscient. D'où l'importance d'avoir un espace intermédiaire du côté de l'image, mais pas d'une image symbole, d'une image qui va donner accès à ce que je vais appeler, au niveau groupal, plutôt quelque chose du côté de la fresque, plutôt d'un truc un peu, un ensemble généalogique. Eh bien, cette image fresque, elle nous permet, grâce à la mise en accueil, en écoute, en disponibilité, en invitation, plus qu'en accueil de rêve, en invitation à la possibilité de faire un travail de figurabilité, à produire quoi ? Pas produire de l'analyse du contenu de rêve. C'est là où le travail du rêve est d'un tout autre registre. Il nous amène à produire de la narrativité autour de la rêverie. Et c'est cet accompagnement à la rêverie, ce soutien à la rêverie, qui est mobilisateur d'un espace qui va produire quoi ? Eh bien, qui va produire une nouvelle narrativité que je vais appeler un néocontenant narratif. Et ce contenant narratif, il est là pourquoi ? Il est là parce que les familles que nous sommes amenés à recevoir, elles sont en panne de figurabilité, de capacité de figurabilité. Ce qu'on fait, ça n'est pas de l'analyse interprétative. Ce qu'on fait, c'est de l'accompagnement étayant, en s'utilisant nous-mêmes au plus profond de nous-mêmes, des conditions rendant possible un accès à la figurabilité. D'où ce travail sur l'onirisme, d'où ce travail sur le holding onirique comme possibilité de porter ce qui va être contenu ensuite par ce nouvel espace thérapeutique. Dans cette utilisation-là, on voit que la position de l'analyste va travailler au plus près de son contre-transfert, mais dans une drôle de position. Une position, on disait que Ruffio hier pensait la famille comme un nourrisson. Moi, j'ai tendance plutôt à me penser moins comme un enfant et un nourrisson qui écoute, c'est-à-dire qui écoute avec une espèce d'empathie à la figurabilité, d'empathie à la rêverie. C'est-à-dire que c'est plus, j'écoute là, mais c'est une rêverie qui n'est pas une rêverie cognitive, pour reprendre Tassin. C'est une rêverie sensation, une rêverie imagerie, une rêverie d'odeur, hein, de choses comme ça, qui va nous permettre d'entrer dans des tas d'histoires, de trucs, de la généalogie, hein, mais qui va faire écho et rendre possible ce travail de contenance. Dans l'exemple d'Aïdé, on va être d'un autre côté. On va être aussi dans cette possibilité de s'utiliser au niveau de son contre-transfert, mais à travers quelque chose où Aïdé va proposer ce que Jean-Georges Lemaire appelle des greffes, lui il appelle ça des greffes mythiques. Et là, effectivement, tu proposes quelque chose de l'ordre de cette greffe. Eh bien, je dois dire, et je vais finir pour dire effectivement, que nous avons là une proposition merveilleuse à travers vos, hein, qui nous permet de montrer en quoi le travail de thérapie familiale est un travail esthétique. C'est une production esthétique qui résout des paradoxes impossibles, des paradoxes logiques, et qui permet, grâce à cette production, de faire que nous avons une chance extraordinaire d'être des thérapeutes pour lesquels on est sans arrêt des créatifs. Quel hommage à Ruffio.
Merci. Merci d'avoir respecté ce temps. Je pense que cela nous donne la possibilité d'avoir quelques échanges qui sont certainement très importants. Alors, certainement, il y a des questions qui, malheureusement, sont restées silencieuses, mais d'autres qui peuvent être posées maintenant. Je crois qu'on a des pistes de réflexion, en tout cas, avec tout ce qui a été apporté là, et y compris là maintenant par Pierre, qui sont tout à fait intéressantes et enrichissantes. Quelqu'un veut-il intervenir sur ce qui a été... Oui ? Alberto ?
Oui, c'était une table ronde très, très riche, très imagée et très parlante aussi. Je pense que toutes les propositions sont importantes. Je ne suis pas totalement très, très sûr qu'il faille privilégier la fantasmatisation, la reconstruction narrative, ou ceci ou cela. On a besoin de tous ces dispositifs et être disposé à les fonctionnaliser quand cela se présente. L'interprétation aussi a une fonction. Et chaque chose a sa valeur parce que ça transcende cette valeur. Et la valeur. Quand on interprète, on transmet des images, on transmet la beauté. On transmet nos sensations, les contre-transferts et parlent par l'interprétation. Donc tout ça est relié, Pierre. Je pense qu'on ne peut pas privilégier l'un ou l'autre, mais c'est bien que tu parles de la rêverie comme un élément constructif essentiel. Et je vais en ajouter un, et c'est ça un peu la question que je voulais vous poser, parce que ça se dégage de ce que vous avez fait, Aïdé et Elisabeth, c'est l'historisation. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, dans un processus qui a duré quelques temps, qu'on est en régression, la famille et nous, dont on a absolument besoin de redire un peu comme les choses se sont passées depuis qu'on s'est connus, qu'on a créé les neurogroupes, et établir peut-être des pointages sur cet historique que nous avons construit ensemble. Et c'est à la fois très éclairant et c'est à la fois très constructif, parce que ça permet d'élaborer. Voilà une reconstruction de tout ce que vous avez dit, un enfant sous les épaules d'un père. Merci.
Merci à tous.
Ouais. Merci pour cette intervention. Quelqu'un d'autre veut-il intervenir ? Encore une question ou une intervention à la suite de ces très riches échanges. Bon, mais je crois que... Alors, franchement, je pense que André Ruffio aurait été très heureux s'il avait pu partager avec nous tous ces échanges et toute cette... continuité à partir de la richesse de ce qu'il nous a apporté. Et je pense que nos pensées étaient tout à fait tournées vers lui pendant ces deux journées, que nous sommes très ensemble, nous avons vraiment cheminé un petit peu avec lui, avec sa pensée, et c'est ce que nous pouvions faire de mieux dans le souvenir et dans l'hommage que nous pouvons lui porter. Voilà, nous, avant de donner la parole à la conclusion, il y a une petite surprise qui nous arrive, mais je voulais aussi donner une information très rapide. C'est au sujet du colloque ou du congrès de Synepsie,
qui va avoir lieu à Gaillac, dans le Tarn. Vous connaissez le principe de ce congrès-là. Le thème, c'est le couple dans la famille. Ceci, les 21, 22 et 23 septembre prochains. Le site, pour le trouver, c'est CEPHEIDE. CEPHEIDE. Voilà, je vous laisse donc trouver ça, éventuellement. Merci à tous et je laisse donc la parole pour notre petite surprise.
Alors, avant de conclure, je me fais non pas le porte-rêve, mais le porte-parole de Gérard de Cherf, qui est parmi nous, et qui voulait nous faire partager avec nous une remarque, une réflexion que je vous livre. Il nous propose de penser les personnes qui ont été victimes de vécus traumatiques comme étant marquées d'une façon particulière par les défaillances de leur enfance. Il nous dit « Ces patients ont une difficulté particulière pour fantasmer et restent souvent dans un entre-deux. J'ai appelé sensation, scénario, sensation ou cauchemar du jour, ce vécu intermédiaire. Le scénario sensation, nous dit Gérard, est un fantasme, est au fantasme ce que le cauchemar est au rêve, un vécu non dégagé de la sensation, non encore symbolisé. On sait que dans le cauchemar, la personne qui se réveille éprouve un bref sentiment de réalité, comme si, par exemple, le voleur qui était entré par effraction était encore là. En même temps, elle ressent un vécu multisensoriel avec des palpitations, de la transpiration, des images violentes, mais il ne s'agit pas pourtant d'un délire. Le scénario sensation, nous dit Gérard, correspond à une relation indifférenciée qui s'appuie sur le co-éprouvé familial d'origine. Voilà encore un autre sujet de travail qui reste très ouvert. Alors je vais, pour conclure, d'abord remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ce colloque, aussi bien la qualité des orateurs, la qualité de leur contenu, mais aussi la qualité de leur présence et de leur bienveillance, et aussi Madame Moutardier, notre secrétaire irremplaçable, les étudiants de Tours et d'ailleurs qui vous ont accueillis et qui nous ont permis de pouvoir être relativement et même parfaitement accompagnés. Alors, pour finir, je vous demande d'avoir un peu de tolérance et de naïveté. Je vais vous lire un tout petit conte qui m'est revenu en mémoire, que j'avais écrit il y a une dizaine d'années à propos d'une famille. Donc, il m'est revenu en mémoire quand on a préparé ce colloque. Je vous le livre comme tel. Il était une fois une famille taupe, une famille unie et aimante. Le papa, la maman et les deux enfants vivaient paisiblement sous terre, entourés de galeries confortables qu'ils construisaient eux-mêmes avec beaucoup d'ardeur et de courage. Il possédait même une galerie héritée qu'il nommait la galerie des ancêtres. Cette galerie était l'objet d'attention particulière et une certaine solennité y régnait. Personne n'aurait su dire pourquoi. Le papa taupe et la maman taupe mettaient toute leur tendresse et leur savoir à l'œuvre afin d'offrir à leur topolino des galeries douillettes sans être pour autant luxueuse. C'était une famille taupe qui s'aimait beaucoup, qui s'aimait tellement, qui s'était fait le vœu suivant. Ne jamais se trahir, ne jamais faire ou dire quelque chose qui viendrait briser leur unicité. Mais il ne faut pas se méprendre. Ce n'était pas un vœu contraignant en relevant d'on ne sait quel devoir. Non, non, c'était une règle silencieuse, souterraine, une règle d'amour sécurisante et apaisante. La vie de famille aurait pu se poursuivre ainsi, paisiblement, avec ses hauts et ses bas, avec aussi des trous à combler, sûrement. Or, il advint qu'un jour, un jour pareil aux autres, ou plutôt une nuit, car pour cette famille taupe, c'était toujours la nuit. Et c'était bien comme ça, car la nuit, toutes les taupes sont grises. Point de rivalité ou d'envie, point de différence, si ce n'est de taille. Or, une nuit donc, de celle pareille aux autres, sans que rien ne l'alerte ou ne l'y prépare, sinon, il se serait tu, ou mieux encore, terré, ou encore il aurait eu une frénésie à creuser encore plus profond. Or, une nuit donc, le petit Topino demanda à ses parents « Pourquoi les taupes vivaient-elles dans le noir ?» Quelle étrange question, pensèrent en cœur les parents. Ils auraient sûrement souhaité ne pas l'entendre. Mais le silence qui suivit était pesant, bien plus lourd que la question. Alors ils réfléchirent et trouvèrent une réponse admirable, une réponse de la nuit des temps. C'est parce que les taupes sont aveugles. C'était simple, c'était beau et tellement réconfortant. Le petit Topino écouta bien ses parents, car s'il ne pouvait voir, il savait entendre. Mais bien malgré lui, il se prit à penser. Comment les taupes pouvaient être aveugles si elles ne connaissaient pas la lumière ? Le petit Topino aimait beaucoup ses parents et en aucun cas il ne souhaitait les contrarier davantage. Il enfouit ses remarques et finit par oublier ses drôles de pensées. Les années passèrent, le petit Topino grandit. Il avait appris à creuser des galeries dans le sillage de ses parents. Il avait même acquis une réputation de galériste de talent. Ses galeries étaient recherchées, aériennes. Un jour qu'il était à l'ouvrage, il ressentit une chose étrange, inconnue jusqu'alors. La terre avait une autre odeur, particulière, parfumée, délicate. Une autre couleur, profonde et lumineuse à la fois. Une autre couleur, s'entendit-il penser. Mais comment pouvait-il, lui, une taupe, discerner les couleurs ? À la lumière de cette étrange découverte, il s'effraya. Les taupes n'étaient-elles pas aveugles de père en fils ? Se pourrait-il qu'il ne soit pas une taupe ? Ou pire encore, le fils de son père ? Épuisé par toutes ses émotions, il s'endormit seul pour la première fois. Et pour la première fois aussi, il se mit à rêver. Oh, il n'a jamais raconté son rêve. S'en souvenait-il seulement. Mais à son réveil, il était apaisé, habité d'une découverte précieuse. Du noir jaillissait la lumière. Merci.
Merci à tous et à très bientôt et faites de beaux rêves.